Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, et si nous étions au bord d'une révolution? Désormais, 40% de la population mondiale est connectée, ce n'est quand même pas rien. Nous sommes capables de partager des idées, des biens et d'inventer à plusieurs milliers sur toute la planète grâce à Internet. Et c'est peut-être cela qui va sauver le monde. C'est en tout cas l'avis du théoricien des nouvelles technologies, Michel Bowens.
Rappelez-vous, en mai 68, Hubert Beuve-Méry avait écrit le jour avant « La France s'ennuie ». Et Lénine, un mois avant la révolution russe, avait dit « Malheureusement, je ne pourrais pas vivre la révolution dans ma vie ». Donc ça veut dire que même les gens qui étaient au plus près de ces processus ne savaient pas prédire quand le feu allait prendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler, il faut se hâter lentement. Il y a des urgences climatiques, et écologiques et économiques dans le monde. Il faut se mettre au travail, mais il faut construire du solide en même temps. Et alors quand la crise survient, et on ne sait pas quand elle va survenir, on doit être prêt. On doit être prêt avec des germes d'alternatives.
Michel Bowens sera notre invité tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Cette semaine, le petitjournal.com, un média en ligne et en français présent dans 46 villes du monde, a décerné pour la troisième année ses trophées des Français de l'étranger. Et dans la catégorie environnement, c'est vous qui avez été récompensé. Christian Leguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agricole, vous vivez depuis 32 ans au Burkina Faso et depuis 14 ans, vous travaillez pour l'ONG belge Autre Terre qui vise à promouvoir l'économie sociale et solidaire et à développer l'agroécologie. Alors, je tiens à préciser tout de suite aux auditeurs qui nous écoutent, ce n'est pas une obsession nouvelle dans C'est pas du vent de parler d'agroécologie au Burkina Faso, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur le sujet récemment, notamment on était à la ferme de Guillet la semaine dernière, mais voilà, c'est vous qui avez gagné, donc on ne va pas vous priver de la parole sous prétexte qu'on en a parlé la semaine dernière. Alors, expliquez-nous donc, en quelques mots, rappelez ce que c'est que l'agroécologie.
Bon, en fait, l'agroécologie, elle se base sur des principes naturels, d'utiliser les techniques naturelles telles que cultiver sans forcément utiliser des engrais chimiques ou des pesticides ou autres produits chimiques, mais elle permet surtout de pouvoir utiliser ce qu'on trouve dans l'environnement.
Voilà, c'est très important dans un pays comme le Burkina Faso, qui est au Sahel, donc en zone aride.
Tout à fait.
Où les pluies sont un peu capricieuses, notamment avec les changements climatiques.
Tout à fait. De plus en plus rares et de plus en plus aléatoires, à tel point que le paysan, en début de saison, ou même en cours de saison, il ne sait plus trop comment... Il n'a plus de point de repère, finalement.
Faire la promotion de l'agroécologie au Burkina Faso, on l'a vu même avec le témoignage de la semaine dernière, c'est évidemment très adapté aux besoins du pays, mais c'est difficile parce que vous devez lutter contre les semences subventionnées par le gouvernement qui vont avec leur kit d'intrants.
Oui, en fait, c'est effectivement un des problèmes depuis... Quelques années, effectivement, au niveau des politiques agricoles du Burkina, mais en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale, on a tendance à subventionner fortement les engrais et tout le package qui va avec, notamment les semences améliorées, dites améliorées, qui sont souvent des semences hybrides, donc le paysan ne peut pas ressemer et qu'il est obligé de chaque année de racheter aux semenciers. Et elles sont souvent beaucoup plus chères. Si on prend le cas du Burkina avec le coton, les semences liées du coton, mais là, même c'est du coton OGM, elles coûtent à peu près 15 fois plus cher que les semences conventionnelles.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour casser ça?
Pour casser ça, je crois qu'il faut travailler avec les paysans. Donc, en termes de sensibilisation, leur faire comprendre en quoi leurs semences paysannes ne sont pas mauvaises. Elles sont même très bonnes. Et en plus, par rapport au changement climatique, elles peuvent facilement s'adapter. Si d'ici quelques années, supposons que la température augmente de 1 ou 2 degrés, dans le stock de semences paysannes qui existe, on peut vraiment facilement en trouver. Par contre, si du jour au lendemain, les paysans vont vers les semences améliorées, hybrides ou même OGM, on risque, s'il y a un changement climatique plus ou moins brutal, on risque d'avoir de sérieux problèmes en termes de production. Et le paysan ne pourra pas trouver de solution s'il a perdu ses semences. Et ça, c'est le risque majeur qu'on risque d'avoir dans les 5 ou 10 prochaines années.
Oui, mais comme toujours, c'est le combat du court terme contre le long terme. Parce que des paysans me disaient, quand j'étais au Burkina Faso, que la difficulté, c'est que le gouvernement n'achète pas les productions qui ne sont pas produites par les semences améliorées.
Donc là effectivement, il y a différents problèmes. Effectivement, si on voit notamment la filière coton au Burkina, effectivement, c'est une filière intégrée. Et en fait, on donne aux paysans les intrants en début de campagne, sous forme de crédit. Et donc, c'est par ce moyen-là qu'on coince entre guillemets le paysan, ou à la récolte, quelquefois même il n'a même pas suffisamment pour rembourser. Et donc du coup l'année prochaine, il est obligé de continuer encore avec les intrants à crédit. Et du coup ça devient un cercle vicieux. Et le cercle peut devenir beaucoup plus vicieux encore avec les OGM, où les coûts de semences et d'intrants, de pesticides et d'herbicides maintenant avec le Roundup. Si on regarde les politiques agricoles, notamment au Burkina, on s'aperçoit qu'on va dans tous les sens. Effectivement, on peut très bien aujourd'hui parler de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, des agro-businessmen, avec le problème aussi d'accaparement des terres qui s'ajoute, et vers, disons, les agro-industriels, on peut dire ça comme ça. Donc, en fait, il y a un tiraillement entre toutes ces différentes agricultures. Et le risque majeur... Par exemple, l'an passé, on était à l'année internationale de l'agriculture familiale. Mais le risque majeur, c'est que du jour au lendemain, beaucoup de paysans risquent de quitter leurs terres du fait qu'une partie des terres risque d'être accaparée ou qu'ils ne puissent pas s'en sortir avec l'agriculture conventionnelle à base de semences améliorées et produits chimiques.
On a bien compris le message. Merci beaucoup, Christian Le Guay.
Oui, merci Anne-Cécile.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
La France a pris un sacré pari en acceptant d'accueillir la 21e conférence des Nations Unies sur le climat en décembre prochain. Car d'ici là, il faut rallier 195 pays à la cause, les convaincre qu'il faut agir maintenant, car c'est le futur de l'humanité qui est en jeu. Et c'est bien cette notion de futur qui pose problème. Par exemple, pour un pays comme la Russie, dont l'économie repose sur l'exploitation des énergies fossiles. La France fait donc jouer son réseau diplomatique, le troisième au monde, et ses ambassadeurs, comme Laurent Toubiana, en charge des négociations sur le climat, et Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la planète du président français. Ils étaient tous les deux à Moscou au début de la semaine pour évaluer la position de la Russie, et pour Nicolas Hulot, le diagnostic est plutôt positif.
Il y a quelques années, le médecin général ici, Onichenko, avait dit « c'est pas le réchauffement de la planète qui va ennuyer la Russie, c'est pas un degré de plus l'hiver qui va nous ennuyer ». Comment on convainc les Russes que le réchauffement de la planète, c'est pas un degré de plus l'hiver ?
Écoutez, visiblement, ils se sont convaincus sans qu'on ait besoin d'intervenir, parce que Medvedevski, qui est le conseiller de Vladimir Poutine sur les changements climatiques, nous a fait référence d'un sondage qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça en Russie, et qui montrait que plus de 60% des Russes étaient conscients que c'est un véritable enjeu, une véritable menace, à la fois à l'échelle planétaire, mais également pour la Russie. Donc visiblement, les mentalités ont évolué. 20% seulement dans le même sondage, mais peut-être qu'on aurait la même chose en France, disaient qu'ils étaient prêts à revoir leur mode de vie pour lutter contre les changements climatiques. Donc on part pas d'un point zéro. D'abord parce qu'en Russie comme ailleurs, malheureusement, les événements sont nos meilleurs alliés. Il y a eu des démonstrations que le changement climatique n'épargnera pas la Russie. Les feux de tourbière que vous avez connus à proximité de Moscou, les incendies de forêt, les périodes de sécheresse avec les impacts sur le prix des denrées alimentaires, ces cratères soudains qui émergent dans les territoires sibériens à cause du dégel du permafrost et des émanations brutales de méthane sont autant de petits signaux de rappel. Alors ça n'a pas évidemment les mêmes impacts qu'aux Philippines ou qu'au Vanuatu. Mais ils ont conscience que la grandeur au sens géographique et au sens économique de leur pays ne leur suffira pas pour s'isoler d'un phénomène global. Et puis, bon, je pense que les Russes ont quand même compris que si même eux seront peut-être dans un premier temps moins affectés que d'autres pays, si tant est que les températures soient limitées à 2 degrés, parce qu'ils ont conscience que si on passe au-delà de 2 degrés, eux-mêmes, évidemment, seront impactés parce que la montée de plusieurs mètres du niveau des océans les concernera évidemment également. Mais ils ont conscience que, de toute façon, pour répondre à l'enjeu climatique, et on va y répondre, parce que si la communauté internationale s'évertue depuis aussi longtemps, et le point d'orgue sera Paris, à se mettre d'accord sur les stratégies pour faire face au changement climatique, la première réponse, c'est bien de se libérer des énergies fossiles. Ils ont conscience que la question ne se pose pas de savoir si on va rentrer dans une économie décarbonée. La seule question, c'est quand. Et donc, les Russes ont aussi compris que leur intérêt, c'est quand même d'anticiper et d'accompagner et de ne pas subir brutalement Donc les choses ne vont pas se faire brutalement, mais leur intérêt, c'est la diversification économique et la diversification énergétique.
Si la Russie est aussi enthousiaste que Nicolas Hulot le dit, quel rôle peut-elle alors jouer dans la négociation sur le climat, notamment au sein du groupe des pays émergents que l'on appelle les BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud? Réponse de Nicolas Hulot.
C'est probablement plus difficile pour un pays dont 30% du PIB provient de l'exploitation des énergies fossiles que pour un pays qui n'est pas dépendant à ce point-là. C'est pour ça que c'était important de voir que, compte tenu de ce contexte économique, compte tenu du contexte géopolitique, ces sujets-là faisaient partie quand même de leurs préoccupations. Bon, on aurait pu s'attendre à ce que, compte tenu de ces deux paramètres-là, il y ait une fin de non-recevoir ou éventuellement même une réponse assez sèche. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit du négociateur russe et du conseiller de Vladimir Poutine. D'abord parce que la Russie fait partie de ces 195 pays qui ont préparé notamment à Durban la feuille de route de Paris et qui s'est engagé à signer un accord global juridiquement contraignant pour limiter les changements climatiques à 2 degrés. Donc certains vont découvrir que la Russie est dans ce mécanisme et ils y sont depuis longtemps. Bon, ils auraient pu changer d'avis. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est, compte tenu du contexte, est-ce que justement leur attitude assez positive allait être révisée ou pas? On n'a pas le sentiment. Alors évidemment, il va falloir qu'ils aient un échéancier pour diversifier leurs ressources économiques et leurs ressources énergétiques, mais va elle-même, dans un laps de temps court, faire partie des pays qui vont poser leurs premiers engagements, comme les Nations Unies l'ont demandé, pour la conférence de Paris. Nous, c'était notre souhait. D'abord de voir si la Russie allait avoir son propre engagement, parce que quatrième émetteur de gaz à effet de serre, si la Russie ne livre pas sa propre participation, c'est difficile pour nous de convaincre des pays moins émetteurs de prendre leur quote-part. Bon, donc ça, ils nous l'ont confirmé. Deuxième chose pour nous qui était importante, c'est que dans ce groupe de pays qu'on appelle les BRICS, et qui évidemment ont des attitudes parfois assez radicales, assez exigeantes, notre influence n'est pas la même que la Russie au sein de ce groupe-là. Et spontanément, parce qu'il y a une réunion à laquelle la Russie va participer au mois de juillet, les Russes nous ont proposé de servir d'intermédiaire et d'essayer justement que chacun fasse un pas vers l'autre. Parce que Paris sera forcément un compromis, bien entendu. Il faut que les pays du Nord entendent les revendications des pays du Sud. Il faut que les pays émergents entendent aussi que les pays du Nord ne peuvent pas tout faire au prétexte qu'ils ont une responsabilité parce qu'ils ont des marges de manœuvre aussi limitées. Donc chacun doit faire preuve de bonne volonté et comme je l'explique souvent, chacun doit aborder Paris non pas par le prisme de ses intérêts nationaux, mais par le prisme d'un intérêt universel parce qu'à Paris, ce que je m'efforce de dire ici en Russie, comme je le dis en Chine, on sera tous gagnants, tous perdants. Personne ne pourra tirer seul son épingle du jeu.
Des propos recueillis par Muriel Pomponne.
R.F.
Overwhelming consensus on global warming.
Climate is changing, weather patterns are changing, and that over the long term it will have a significant.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
I'm worried about the future we're going to leave to our children in the world.
Des questions, des réactions. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
For centuries, the rays of the sun have warmed
and start to prepare.
Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Pierre Radane.
La chronique climat de Pierre Radane vous est proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
Ce qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radane.
Bonjour.
Depuis quand avons-nous commencé à nous rendre compte finalement de la réalité des changements climatiques?
Oh, ça date d'il y a longtemps. En fait, ça date de 1824. On est au tout début de la chimie et de la physique moderne et on s'aperçoit que certains gaz bloquent la chaleur et qu'à partir du moment où on utilise du pétrole, du charbon, du gaz, eh bien on va avoir davantage de ces gaz dans l'atmosphère. Mais une fois qu'on a fait cette compréhension-là en 1824, il va falloir 150 ans pour avoir la vérification. En fait, la vérification va venir au début des années 80. On va faire l'analyse des glaces de l'Antarctique. On va reconstituer la composition de l'atmosphère et la température terrestre depuis 150 000 ans. Et donc, on a la preuve. Alors, aussitôt, alerte scientifique, bien sûr, et un groupement, le groupement intergouvernemental des experts du climat, le GIEC, va être constitué en 1988 pour prendre cette question en charge. Et donc, le sujet, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette approche scientifique est si importante dans cette question du changement climatique.
Alors, le premier rapport du GIEC date de 1990. Qu'est-ce que l'on a appris depuis ?
D'abord, le GIEC a exprimé, dès son premier rapport, la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique tel qu'on le constate aujourd'hui. Et les choses vont aller très vite. Et c'est inédit dans l'histoire. Entre l'alerte scientifique 1985, le rapport 90, on va avoir en 1992 un traité international, la Convention de Rio, signé par tous les pays de la planète qui reconnaît le sujet. C'est très court, 7 ans, entre l'alerte scientifique et la décision politique. Alors, depuis, le GIEC émet régulièrement des rapports, et ce qu'il faut comprendre, donc il approfondit les analyses, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on a une autre autorité scientifique qui a autorité sur la discussion. Et donc, il va rapidement donner des simulations, des scénarios à l'horizon 2100, et il va nous dire qu'après le réchauffement qu'on a déjà eu d'un degré pendant le XXe siècle, on va avoir un réchauffement entre 2 et 5 degrés au XXIe siècle, c'est-à-dire un réchauffement équivalent en ampleur à la sortie de l'ère glaciaire, je dirais, dans la vie d'un enfant déjà né. Vous voyez, donc on est là sur quelque chose d'extrêmement important, et puis ensuite le GIEC va pointer les effets sur l'environnement, et notamment dans les rapports récents, en soulignant le fait qu'on va avoir un déficit de pluviométrie et donc une baisse des rendements agricoles dans les pays tropicaux. Et donc, au-delà d'un réchauffement de 2 degrés seulement, eh bien, on risque d'être en situation de ne pas assurer l'alimentation de la planète, donc à horizon 2050, puisqu'en 2050, on sera probablement 9,5 milliards d'habitants sur Terre. Donc, en fait, on a une limitation du changement climatique supportable pour des questions alimentaires. Et puis, dernier rapport, bien sûr, de plus en plus, rentre dans les discussions de qu'est-ce qu'il faut comme technologie, qu'est-ce qu'il faut comme production électrique, et puis quelles sont les politiques publiques qu'il va falloir mettre en œuvre pour cette question-là, et donc les débats qu'on aura ensuite donc pour la conférence de Paris.
Alors le GIEC, ce sont des milliers de scientifiques à travers le monde. Comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors c'est très étonnant. Donc on a des rapports à peu près tous les 6-7 ans. Chaque rapport, bien évidemment, apporte des réponses, mais en même temps suscite des questions et donc enclenche des nouvelles études. Si vous voulez, la question scientifique, c'est pas un match de foot, c'est pas un à un balle au centre. C'est-à-dire que quand on pose une question, ça veut pas dire que tout ce qu'on a compris auparavant était faux. Donc on est dans un processus qui avance progressivement. Avec une remarque qui est tout à fait essentielle sur le sujet, c'est que la controverse est le moteur des sciences. S'il n'y avait pas de controverse, on serait dans le dogme. Et donc on a chaque rapport du GIEC, qui est donc avec des scientifiques, mais aussi les responsables des États, qui aboutit à des conclusions. Ces conclusions sont adoptées par les représentants des pays, donc les engagent. Donc on est dans un processus qui est un processus double, scientifique et politique.
Mais malgré cette mobilisation scientifique inédite, hein, vous l'avez dit, il y a toujours des polémiques sur la réalité et les causes du changement climatique. À la marge. Mais elles sont quand même là.
Il y a un fondement qui est réel et auquel, finalement, moi aussi, je souscris. Personne n'a envie du changement climatique. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans une logique, je dirais, de se débiner, quoi. Je croirais au changement climatique si tout le monde était d'accord sur le sujet. Est-ce que les gens croient dans l'économie parce que tous les économistes sont d'accord sur le sujet ? Ça fonctionne pas comme ça. Hein. On est sur un sujet qui est réel, qui fait des victimes, et donc il est essentiel qu'on le prenne en charge, et c'est ça qui compte.
Merci Pierre Radan.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Restez sur RFI, de toute façon vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous verrons avec Michel Bowens, l'un des théoriciens les plus célèbres des nouvelles technologies, comment le partage des données sur Internet peut sauver le monde. C'est en tout cas le titre de son dernier livre. À tout de suite.